Mais non, il y a une vie après normale.
Nicolas Rousselier, bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation d'interview pour Transistor, la web radio de l'École normale supérieure de Lyon. Comme à chaque fois dans cette émission, nous revenons en compagnie d'un ancien de la maison. Vous êtes entré à l'ENS Fontenay-Saint-Cloud en 1983 en tant qu'historien. Petit portrait avant de vous laisser la parole. Vous avez consacré votre thèse à l'étude du parlementarisme républicain en France au lendemain de la Première Guerre mondiale. Travail qui a d'ailleurs eu pour conséquence de remettre en question la vision classique dépréciative, telle qu'elle est d'ailleurs enseignée dans les classes préparatoires, dans les IEP, d'un régime parlementaire associé à des images d'instabilité et d'inefficacité gouvernementale. C'est d'ailleurs l'une des ressources principales de votre travail d'historien, je crois, travail d'ailleurs très actuel, que de vouloir déconstruire cette histoire mythifiée d'une 5e République salvatrice qui aurait mis fin à un parlementarisme exsangue et inefficace par l'effort d'un seul homme. Votre dernier livre, d'ailleurs, La force de gouverner, paru en 2014 chez NRF, essai, s'inscrit d'ailleurs dans cette lignée. C'est un travail considérable sur l'histoire du pouvoir exécutif en France du 19e siècle à aujourd'hui, comme nous allons le voir. Mais avant d'aborder ce livre, j'aimerais tout d'abord revenir brièvement sur votre parcours en tant qu'étudiant à l'ENS. Pourquoi avez-vous choisi l'histoire d'une part, mais surtout pourquoi avez-vous choisi l'histoire contemporaine? Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette partie-là du champ des études historiques par rapport à un antiquisant ou un médiéviste?
Oui, moi je dirais deux choses. D'abord, parce que j'ai même pu réfléchir à ça depuis un certain nombre d'années, un peu en rétrospective. En fait, quand je me souviens de mes plus jeunes années, adolescent, j'étais beaucoup plus attiré par la politique, pas pour faire de la politique, mais la politique pour la comprendre, l'analyser, que l'histoire. Donc, je n'ai jamais été tellement un type plongé dans les livres d'histoire ou l'histoire ancienne, etc., mais beaucoup plus dans les livres politiques. Donc, quand j'étais encore au lycée, j'ai beaucoup lu de la politique. Je me suis piqué de lire un peu de Karl Marx très jeune, des choses comme ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, la passion que j'ai eue la plus forte à partir de la terminale, ensuite en hippo et en cagne, ça, c'était un peu moins évident à cause des profs que j'ai eus, avec qui ça ne marchait pas trop. Mais ma première passion, c'est la philo. Donc, à la limite, voilà, si ça avait été un peu un autre scénario, j'aurais préféré entrer, intégrer normal en philo. Mais probablement, j'aurais débouché sur la philosophie politique, probablement. Donc, c'est plus la politique que l'histoire qui, en fait, m'a toujours passionné, ce qui explique pourquoi, évidemment, si on s'intéresse à la politique, et presque, je dirais, pour elle-même, on peut s'intéresser à plein de périodes historiques, à des républiques de l'Antiquité, des républiques du Moyen-Âge, tout ce qu'on veut. Mais finalement, c'était assez logique d'aller vers l'histoire contemporaine. Voilà, c'est ça le truc.
Et alors, nous sommes ici à Sciences Po, et Sciences Po a quand même une partie de ses effectifs qui prépare l'ENA. Et pourquoi n'avoir pas choisi cette carrière de haut fonctionnaire qui est un des débouchés des élèves normaliens?
Alors ça, c'est parce que j'ai toujours eu une sorte de méfiance ou de rejet vis-à-vis d'une carrière politique, d'engagement. Donc je n'ai jamais eu aucun engagement, en tout cas de nature politique. Et ça m'est resté, donc c'était assez jeune. J'ai fait Sciences Po, donc en même temps que Normale Sup Saint-Cloud. C'était d'ailleurs presque en clandestin, parce que c'était très mal vu des profs de Saint-Cloud, qui d'ailleurs étaient des personnes remarquables, et je ne les critique pas pour beaucoup d'aspects, mais il y avait un aspect où ils avaient peut-être un esprit un peu étroit, où maintenant je comprends mieux les choses rétrospectivement, et je crois qu'ils avaient peur aussi d'un effet que des normaliens soient attirés par Sciences Po, et donc par l'ENA, et que ça échappe à l'enseignement. Donc maintenant, je comprends mieux un peu pourquoi ils voyaient ça d'un mauvais œil. Et moi, en fait, j'ai fait Sciences Po, c'était plutôt pour prolonger finalement la multidisciplinarité des classes préparatoires, et puis notamment pour aller faire de la politique, sociologie politique, même de l'économie. J'ai beaucoup bouffé d'économie, je me suis beaucoup tapé de l'économie difficile à l'époque à Sciences Po. Mais finalement, ça sert quand même pas mal de toucher un peu sa bille en théorie économique, même si j'ai perdu un peu ça depuis lors. Voilà, donc j'ai fait Sciences Po pour continuer à faire pas mal de disciplines diverses. Précisément parce qu'au fond, ma vocation la plus profonde, j'ose à peine le dire, mais si vous-même vous êtes historien, en fait, ma vocation la plus profonde, c'est peut-être pas d'être historien. En tout cas, je suis très content d'avoir fait de l'histoire, parce que du coup, moi, ce qui me passionne, c'est les questions politiques de fond, les questions politiques fondamentales, donc disons qu'on pourrait prendre d'un point de vue de philosophie politique, mais je suis très content de les envisager par un travail d'historien. Donc le travail des archives, le fait de dérouler toute une période pour essayer de traiter d'une question, en fait, je suis très content de ça.
Alors, venons-en d'ailleurs au travail d'historien. J'aimerais revenir sur le métier de chercheur en histoire précisément contemporaine, puisque le matériau sur lequel vous travaillez est très différent du matériau tel que pourrait être celui d'un médiéviste. Il n'y a pas de fouilles archéologiques en histoire contemporaine, pas encore, et puis ce ne serait plus contemporain. Donc j'aimerais vous poser deux questions, savoir quel matériau est-ce que vous utilisez et quel matériau avez-vous utilisé pour ce dernier ouvrage ou pour vos ouvrages, et d'autre part, qu'est-ce qui, au moment de vous insérer, de vous engager quelque part dans une recherche, dans un sujet de recherche, vous a donné l'intuition des sujets que vous traitez, c'est-à-dire qu'il y aurait autre chose qu'une Troisième République exsangue et inintéressante, et qu'il y aurait matière à retravailler ces questions-là.
Alors, moi, ce que j'ai pu faire, et ça a été dès l'époque de la thèse, ça a été très net quand je me suis plongé dans ma thèse, et j'ai trouvé, disons, un mot qui permet de signaler ça plus tard chez un philosophe anglais qui s'appelle Collingwood, qui est un classique de l'historiographie ou disons de la réflexion sur l'histoire. Il dit, c'est en anglais, mais il dit en gros que le travail de l'historien doit être en fait une nouvelle expérience, enfin faire l'expérience à nouveau de ce que les personnes du passé ont eu. Et alors, j'ai découvert ça après coup, mais finalement, quand moi je me suis plongé, un peu comme un autiste presque, je me suis plongé dans la lecture des débats parlementaires de la période que j'étudiais, qui était une période qui me servait en fait de monographie pour comprendre le parlementarisme de la Troisième République. C'est la période, une législature 1919-1924, la dite bloc national. Et en fait, je me suis mis à lire les débats parlementaires. Et assez vite, je me suis rendu compte que je lisais pratiquement un débat parlementaire par jour, ou quelque chose comme ça, ou deux ou trois. En fait, j'étais sur un rythme. J'ai vécu 4 ans, en fait, avec cette thèse. Alors, disons que le travail de dépouillement a duré 3 ans. Et en fait, pendant 3 ans, j'ai vécu pratiquement au même rythme que, vous voyez ce que je veux dire, que le déroulé du passé, enfin le déroulé de cette période 1919-1924. Donc c'est une plongée, et finalement je me suis retrouvé un peu comme un député de troisième rang, observateur, et à essayer de comprendre cette cuisine, cette machine parlementaire, les tenants et les aboutissants. Et ça, j'ai adoré faire ça, parce que c'est en se plongeant au maximum qu'on peut faire ça. Pour le livre sur le pouvoir exécutif, c'est un livre de plus grande ampleur, qui m'a pris 10 ans à faire. Là, c'est un petit peu la même chose, mais finalement en moins centré sur une seule institution. Là, je n'étais pas enfermé dans la Chambre des députés. Là, j'ai eu recours à 2 choses, toujours pour essayer d'être dans la salle des machines, la main dans le cambouis, et voir ce qui se passe. Pas comme les juristes qui font une exégèse souvent de texte, donc ils vont du texte vers le texte. Moi, alors là, pour le coup, c'était les bonnes leçons des profs de Saint-Cloud, Faut être la main dans le cambouis, y compris quand on fait de la géographie. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé tout cet enseignement venu de Saint-Cloud. Des profs de médiéval aussi. Voilà, quand on parle de telle chose, je sais pas quoi, d'un métier à tisser, bah, il faut essayer d'en voir un, qui quasiment d'aller le toucher pour se dire qu'est-ce que ça pouvait être tisserand au milieu du Moyen-Âge. Voilà, donc moi, j'ai fait ça avec l'exécutif, à la fois, bien sûr, dans les archives. Donc, par exemple, quand j'étudie dans mon bouquin la naissance de Matignon au milieu des années 30, bah, en fait, là, il y a un fonds d'archives où on voit les tout premiers conseillers qui sont autour du président du conseil, comment ils essayent de créer un pouvoir au détriment des administrations ministérielles, enfin des autres grands ministères. Voilà, donc il faut vraiment essayer de se plonger. Et puis l'autre grand recours, c'est la lecture in extenso. J'ai adoré faire ça. Je dis ça, c'est pas pour me vanter, parce que c'est pas... Quand on est chercheur, on a quand même du temps pour soi. Mais la lecture in extenso de grands auteurs républicains. Donc, j'ai lu in extenso les discours de Gambetta dans un ravissement presque continu. Même chose pour pratiquement Jaurès. Enfin, encore que tout ne soit pas publié, mais j'ai lu tout ce qui est publié. De Gaulle aussi, pour Léon Blum. Voilà. Donc ça, c'était des lectures du petit matin que je faisais. Et ça me plongeait vraiment... Alors là, du coup, être dans la tête d'un tel ou un tel. Donc ça c'est comme ça que je travaille. Je ne dirais pas que j'ai une méthode particulière. Je t'avoue, je ne suis pas vraiment... un fanatique de toutes les considérations méthodologiques, etc. Moi, j'ai plutôt tendance à plonger. Parfois, d'ailleurs, à ne plus savoir où on en est. Enfin, je me souviens que pour ma thèse, j'avais moins d'expérience. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais, je ne savais pas trop. Parce que quand on est uniquement dans la phase de dépouillement, je n'avais pas encore trop finalement sorti la tête de l'eau. Alors, sortir la tête de l'eau pour la thèse et concernant le Parlement de la Troisième, c'est qu'en fait, au bout d'un moment... Je me suis dit, bon, il y a deux choses. D'abord, le Parlement permet une discussion extrêmement approfondie, avec des discours, pas tout le temps, mais de temps en temps, des discours qui sont carrément de première valeur, même en termes philosophiques, de rhétorique, et que donc il y a des lois qui sont vraiment fabriquées au sein du Parlement et qui vont jusque dans le détail, et qui sont souvent un tissu de compromis de ce que j'ai appelé dans le livre les diagonales parlementaires entre plusieurs tendances. Et ça, ça m'a plu, en fait. Ça m'a plu, c'est une leçon de pluralisme. Voilà, ça m'a semblé être la vraie leçon républicaine, qu'en fait, la loi est faite par plusieurs tendances et non pas une seule. Et en fait, je suis tombé amoureux pratiquement de cette richesse des débats, du Parlement. Et en même temps, moi je suis pratiquement né avec la Ve République, évidemment c'était en contraste avec ce qui se passait au même moment dans notre actualité, dans notre actualité de la Ve République, la tristesse, pour dire le moins, la tristesse du spectacle parlementaire, quand on voit les questions, les types qui sont réduits à 5 minutes, qui ne s'écoutent même pas, on a supprimé sous la Ve République le droit d'interpellation, donc qui sous la Troisième permettait ces grands débats de fond sur les grandes questions du moment. Genre, s'il fallait débattre pendant 3 jours, ben on débattait pendant 3 jours. Donc, par exemple, s'il fallait débattre pendant 3 jours sans s'arrêter de la déchéance de nationalité, ben on le ferait si on était sous la Troisième. Ça me semblerait une bonne chose. Voilà, donc je suis tombé amoureux comme un enfant de la Cinquième qui n'aime pas la Cinquième, qui n'aime pas le présidentialisme et qui, en fait, redécouvre ça. Bon, évidemment, si on s'arrêtait là, ce serait juste une sorte d'opinion personnelle et pas forcément très, très scientifique. Alors l'aspect plus scientifique, même si j'aime pas le mot scientifique, l'aspect le plus rigoureux, disons, pour redécouvrir le Parlement, c'était alors là de voir que, en dépit de l'instabilité des cabinets, l'instabilité gouvernementale, qui évidemment ne peut pas être niée, il y avait une continuité des politiques, parce que la continuité venait de la structure de majorité. Donc là, j'ai élaboré des choses un peu statistiques, j'ai utilisé l'analyse factorielle, voilà, pour montrer qu'il y avait... En fait, si on veut chercher la force de ce régime faible, apparemment faible, il faut la chercher dans la force de majorité. La majorité a un effet d'accordéon, donc parfois elle se réduit, ce qui fait que le gouvernement chute, mais elle se recompose. Et en fait, elle continue, avec des petits ajustements, elle continue à délibérer des mêmes projets, et finalement, elle arrive au vote d'une loi. par exemple, dans mon bouquin, là, le deuxième sur l'exécutif, là, j'ai étudié la loi de 1905 sur la séparation. Et donc là, il y a deux ou trois gouvernements pratiquement qui chutent dans la même période. Donc on voit comment ça marche concrètement. Là encore, il faut être dans la salle des machines. Il faut être pratiquement une petite souris auprès de la commission dont le rapporteur est brillant, voir par qui il est conseillé et voir comment se fait l'élaboration et se rendre compte que, en dépit de la chute de gouvernement, la chute de Combes en l'occurrence, en fait, la Chambre a continué son travail parce que le cœur du travail, c'est cette commission, c'est Aristide Briand, les trois conseillers qui sont autour de lui et qui font le job, qui font le travail. Et qui font cette continuité, et finalement, ils réussissent d'abord dans la commission, ensuite en séance plénière, ils réussissent à construire, mais c'est très subtil, à construire cette majorité qu'on appellerait un peu bêtement une majorité d'idées, comme si c'était une idée qui tombait sur les gens comme la grâce. En fait, on devrait dire une majorité de travail, on devrait dire, parce que c'est au bout de 2 ans de travail qu'ils ont construit leur majorité avec du centre-droit, des gens de gauche. Pas tous, parce qu'il y avait des gens de gauche qui voulaient conserver le concordat, bon, etc. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, ça me fascine, en fait, d'être au cœur de la République et après d'essayer de rendre compte, pour le lecteur, de rendre compte de ce que, finalement, ce dont j'ai eu l'expérience.
Alors, pour reprendre justement vos propos, vous anticipez un petit peu sur mes questions. Je vous cite dans le Parlement de l'éloquence, vous écrivez un moment le phénomène, à propos justement de cette Troisième République tant décriée, le phénomène de majorité existe bien sous la Troisième République. Sa seule originalité est qu'il n'existe que dans la durée de composition du groupe, variant d'une semaine à l'autre. Et. Comment est-ce que vous expliquez le changement, non pas l'État, puisque nous venons d'en parler, mais le changement entre justement la prééminence du Parlement et l'omniprésence et l'omnipotence aussi aujourd'hui de l'exécutif? Comment est-ce qu'on est passé de l'un à l'autre?
Alors, ça, c'est une longue histoire, mais avant de résumer ce basculement, juste pour préciser sur la notion de majorité, bon, c'est vrai qu'à cette époque-là, j'utilisais le terme phénomène de majorité, relation. Alors j'ai construit un petit vocabulaire en kit, si vous voulez. Maintenant, je juge un peu ça jargonnant, donc je ne suis pas sûr que je referais la même chose. Mais il fallait aussi que je donne un peu mes gages. Alors, ça, c'est particulier. Il fallait un peu que je donne des gages côté sciences politiques. Parce que j'étais en thèse à Sciences Po, bien sûr en histoire. Mais l'idée, c'était quand même de faire de l'histoire politique avec une liaison avec la science politique. Bon, je ne pense pas que j'ai trop versé dans le jargon. Mon livre, Le Parlement et l'éloquence, n'est pas non plus trop jargonneux, mais c'est vrai que c'était un petit peu des gris-gris, quoi, pour se faire admettre, finalement, en sciences politiques. Donc, mais plus intéressant, c'est cette notion de majorité. Pourquoi elle est forte? Parce que ce n'est pas du tout une majorité qui, par exemple, va connaître une crise, le gouvernement chute, parce qu'un parti... dans une majorité de coalition, abandonne la coalition, ce qui fait qu'il y a genre 70 députés qui quittent la majorité. Et à ce moment-là, c'est très difficile de reconstruire une majorité derrière. Là, ce n'est pas du tout ça à l'époque, parce que c'est une majorité qui se construit presque individu par individu, compte tenu de la liberté de vote individuelle, qui était le grand idéal républicain venu du 19e siècle, et même en fait libéral derrière aussi. Donc, quand il y a une majorité, en fait, qui vote contre le gouvernement... ça peut être une question d'un petit paquet de voix, de 10 personnes. Donc, d'une certaine manière, il suffit d'un petit ajustement, bien sûr, changer le président du Conseil, 2-3 ministres, et après, on repart sur le même plan général, donc c'est en fait le même parti, au sens large du terme, qui gouverne, à travers la majorité. Mais on s'est adapté à la délibération. C'est en fait les accidents de la délibération et qui sont pris en compte. Voilà. Et ça, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, il y aurait peut-être pas mal de leçons à prendre. Alors, sinon, comment on est passé de l'un à l'autre? Ça, c'est ce que j'essaye de raconter dans le livre « La force de gouverner ». C'est une histoire longue. Il y a plusieurs registres. Je ne pense pas qu'on puisse rendre homogène cette histoire de basculement. Il faut, comme je l'ai fait dans le livre, passer par plusieurs voies. Il y a clairement... une histoire parlementaire de l'un à l'autre, qui est une histoire où l'on voit apparaître des dysfonctionnements du Parlement. Alors là, ça va plutôt dans le sens du préjugé habituel contre la Troisième République. Mais on ne peut pas non plus totalement faire l'impasse des défauts qu'avait la Troisième République, mais j'ai essayé de montrer que les dysfonctionnements surgissent surtout à partir du milieu des années 20. Et c'est très simple, c'est quand le Parlement doit s'attaquer à des questions financières, monétaires, économiques, en gros, quand on doit inventer la politique économique au sens moderne, là, les phénomènes de majorité commencent à ne plus être possibles. La crise du franc au milieu des années 20, il faut trouver des solutions rapides, et le Parlement n'y arrive pas. Donc on voit qu'à un moment donné, il y a finalement un type de décision qui n'implique pas, comme c'était le cas par exemple, la loi de séparation, ça n'implique pas des éléments juridiques où on a le temps de prendre le temps de discuter pour savoir comment modifier l'organisation juridique, administrative, en l'occurrence l'administration des cultes. Ça, on avait le temps de le faire. Là, années 20, années 30, les politiques économiques modernes, de plus en plus, elles font basculer le lieu du pouvoir de la délibération parlementaire vers le gouvernement, qui lui-même, du coup, est obligé de changer, est obligé de s'organiser. C'est pour ça qu'il y a Matignon. C'est pour ça qu'il commence à y avoir des experts à Matignon, des hauts fonctionnaires.
Vous parlez de la Constitution à partir de 1935 à Matignon, d'un secrétariat général qui deviendra permanent ensuite.
Voilà, le secrétariat général à la présidence du Conseil qui est devenu aujourd'hui le secrétariat général du gouvernement. Et effectivement, c'est une structure qui m'a beaucoup intéressé parce qu'elle est administrative, elle n'est pas trop visible, mais elle est vraiment le levier de ce basculement. Hein, le levier de ce basculement. Et donc, à partir du moment où, autour du président du Conseil, il y a une véritable équipe, au départ, ils sont 10 ou 12, il y a une véritable équipe de personnes qui sont là pour conseiller le président du Conseil en matière, de, par exemple, de politique économique, mais il y a aussi la politique de la famille, de la démographie qui se greffe là-dessus dans les années 30. Et il leur propose quoi ? Et ils proposent des prises de décision qui peuvent passer par le décret, en l'occurrence souvent les décrets-lois, les fameux décrets-lois. Donc il y a une nouvelle méthode, littéralement, une nouvelle méthode de prise de décision publique. Ça ne passe pas par le long labyrinthe des deux assemblées. C'est plus économique, à tous les sens du mot. Ça fait gagner du temps, mais ça fait changer la République. Donc là, en réalité, la Troisième République, elle est déjà morte en 1935, et même quelques années avant, par la paralysie du... Au fond, il y avait une sorte de technologie parlementaire qui était, à mon avis, qui était restée longtemps efficace, plus longtemps qu'on ne l'a dit. Je sais, par exemple, que j'ai étudié avec un groupe, d'ailleurs, d'étudiants, les assurances sociales des années 20, hein, les lois sur les assurances sociales. Eh ben, dans les années 20, elles sont encore fabriquées parlementairement, si je peux m'exprimer ainsi, et pas par l'exécutif. Parce qu'au Parlement, on trouve pas mal de médecins, spécialistes, on trouve des gens qui sont des inconnus de l'histoire, mais qui ont dévoué tout leur temps. Alors là, pour le coup, des parlementaires qui travaillent en commission, qui ne vont jamais donner leur nom à la loi finalement votée, qui éventuellement vont être battus dans la législature suivante, et qui ont travaillé comme des malades, mais en spécialistes dans la commission. Donc en fait, il y a des sujets, par exemple sur les assurances sociales, où il y avait la question de comment placer les mutuelles, comment placer la médecine libérale, où en fait, dans le Parlement, il y avait une expertise suffisante, voyez, si on veut parler en termes d'expertise. Et les députés pouvaient finalement produire ce niveau d'expertise suffisant. Sur les politiques économiques, il semble que ce ne soit plus possible. Je dis « il semble » parce qu'en même temps, c'est un peu une course-poursuite. C'est-à-dire que le Parlement s'est mis à se paralyser en même temps que le gouvernement s'est mis à s'organiser. Vous voyez ? En ayant des nouveaux instruments de décision comme les décrets. Et on peut pas, c'est un peu la poule et l'œuf parce que peut-être que le gouvernement, en s'organisant et en utilisant les décrets-lois ou les lois-cadres, il a lui-même précipité le dessaisissement du Parlement. Ou alors, c'est le Parlement qui est vraiment se trouvait dans l'impasse et qui a du coup externalisé la décision, enfin qui a confié la décision au gouvernement.
Et est-ce qu'on peut dire, selon vous, puisque les années 30, c'est aussi le début d'une certaine technocratie, de grandes écoles, est-ce que la technologie parlementaire telle qu'elle est efficiente dans les années 20 et avant n'est pas remplacée petit à petit par une technocratie centrée sur des questions plus économiques ?
Ah oui, complètement. Bah, complètement, parce que, comme vous le savez, la question d'une école supérieure, d'une école normale supérieure de l'administration, ou école polytechnique de l'administration, Elle existe depuis longtemps, elle avait été même esquissée sous la Seconde République, et elle est reprise dans les années 30, par la gauche. Par la gauche, par Jean Zay notamment, le ministre Jean Zay de l'Éducation nationale au moment du Front populaire. Enfin, il l'était déjà un peu avant. Et donc le projet vient de la gauche, et là, c'est là où c'est intéressant, parce que, en fait, la gauche, de ces années-là, prend un tournant, bon, technocratique, ou en tout cas un tournant vers l'efficacité, pour une raison très simple, c'est qu'ils se rendent compte que les lois sociales, une politique économique de type socialiste, serait finalement freinée, voire paralysée par finalement le vieux parlementarisme, notamment parce qu'il y a le Sénat. Et à l'époque, il n'y a pas de commission mixte paritaire, donc ça n'est pas la Chambre des députés qui peut l'emporter. Donc il faut faire les navettes jusqu'à l'infini. Donc c'est une méfiance socialiste qui existe d'ailleurs dans la tradition socialiste depuis le 19e siècle, la méfiance à l'égard du Parlement. Mais là, elle est ravivée par en fait une nouvelle génération très rationaliste qui regardent beaucoup ce qui se fait aussi dans d'autres pays et qui sont attachés à des réalisations sociales, économiques, et qui vont effectivement prôner le passage à une forme de technocratie. Alors finalement, l'ENA va être créée en 1945, avec Michel Debré cornaqué par De Gaulle, mais très vite, l'école est à la fois acceptée par la gauche, et puis ensuite, dès les années 60, beaucoup des élèves, et même je pense la majorité, sont de gauche. Ça nous donne la génération PS du fameux PS d'Épinay, quoi, le congrès d'Épinay, le PS recréé après 71. Hein, toute la génération 70, celle qui est soit ministre, soit dans les cabinets ministériels en 81, vient de là.
Vous parlez d'influence étrangère dans cette mutation progressive. Est-ce qu'on peut parler d'une américanisation progressive ou d'une influence américaine dont il faudrait déterminer les modalités sur la manière dont on conçoit aujourd'hui la répartition des pouvoirs et l'action de chacun des pouvoirs ?
Oui, ça c'est un sujet compliqué parce qu'on serait tenté, en plus c'est un peu dans le courant porteur aujourd'hui, de faire une histoire globale, transnationale. On essaye tous de faire un peu ça. Moi, je le fais maintenant. C'est mon nouveau projet. Mais c'est quand même plus un puzzle de petites pièces qu'on peut prendre ici ou là. Ça ne crée pas une histoire continue. En l'occurrence, là, pour la transformation de la République française, en gros, de la République du Parlement à la République du Président, ça reste quand même... Enfin, je dis ça, c'est un chiffre en l'air. Hein, mais ça reste à 90% une histoire franco-française. Il y a les 10%. Mais ça peut être matiné ça c'est un vieux serpent de mer, comment faire en France un parlementarisme à la britannique, c'est-à-dire où l'exécutif serait quand même suffisamment fort et stable, comme ça l'est le cas la plupart du temps en Grande-Bretagne. Il y a des gens qui regardent du côté des États-Unis, surtout dans l'entre-deux-guerres, le thème de l'efficacité, efficiency, aussi bien dans la rationalisation industrielle, le taylorisme. Et je parle de taylorisme gouvernemental, justement, pour montrer la transformation du gouvernement en France. Mais il y a aussi des inspirations qui peuvent venir, je pense à quelqu'un comme René Capitan, un grand juriste, qui viennent de l'analyse de l'Allemagne, de la République de Weimar. Aussi bien ce qu'elle pouvait avoir de novateur, donc un président fort et un parlement fort, donc essayer d'avoir la quadrature du cercle, d'avoir les deux, et en même temps les échecs, donc l'échec final de la République de Weimar, en raison notamment de la représentation proportionnelle. Donc, vous voyez, c'est un patchwork, quoi. Ça peut venir de l'Allemagne, de l'Angleterre, des États-Unis, voire d'autres pays. Mais si on prend un personnage comme De Gaulle, on le sait, De Gaulle n'a pratiquement aucune formation constitutionnaliste, de droit constitutionnel. C'est René Cassin qui, en gros, le brief pendant la guerre et surtout au lendemain de la guerre, en 1945. Et il avait seulement quelques grandes intuitions qui lui viennent de sa propre tradition familiale monarchiste. Il avait quelques grandes intuitions et surtout, c'est ça que j'ai essayé de voir dans mon livre, il avait une vraie expérience mais qui lui venait de l'organisation du militaire. La nouvelle organisation du militaire à l'intérieur du gouvernement. Donc, si vous voulez, De Gaulle se pose la question de la conduite de la guerre. Mais pas la conduite par un généralissime, un militaire, la conduite de la guerre par le pouvoir politique. Et ça, c'est assez fascinant. C'est-à-dire qu'il pense la conduite politique de la guerre. Donc, par là, il pense qu'il faut à la fois réformer l'armée et, du coup, réformer aussi le pouvoir politique. Donc il a son concept de conducteur de la guerre, bon, c'est ce qui va être de facto pendant la France libre. Et après, en gros, il met en musique constitutionnelle cette expérience de conducteur de la guerre.
Parlons-en du général de Gaulle. J'aimerais vous rapporter cette citation qui est dans votre ouvrage. Je pense que c'est dans le... Non, c'est dans La Force de gouverner. Oui. Donc sur le général de Gaulle, qui parle justement d'un programme. Et il dit un programme, jamais. La politique, c'est la réalité. La réalité, c'est tous les jours qu'elle change. Il faut avoir des principes et des objectifs, non un programme. Alors, si au premier abord, ça peut être perçu comme un certain pragmatisme, avec le recul, on peut se demander si la vision du général de Gaulle n'est pas une sorte de vision pleine d'un certain bonapartisme romantique, où le suffrage ne serait vu que comme la confrontation d'un homme et d'une histoire, d'un homme génial avec une histoire que le peuple se contenterait d'accepter.
Oui, on peut voir ça comme ça. Ça, ce sera un peu la manière traditionnelle de voir de Gaulle à travers la notion de bonapartisme. C'est pas faux, parce que, comme il le dit, pas de programme. Donc, le peuple se prononce sur ma candidature à partir de ce qu'il connaît de moi. En fait, un lien de confiance largement presque mystique. Simplement, il dit quand même les principes. Donc, le peuple doit aussi se prononcer sur les principes généraux que le candidat présente. Ce n'est pas la même chose qu'un programme, mais ce n'est pas non plus rien. Mais ce que je voulais dire, c'est que quand il parle de cela, ça nous renvoie à sa philosophie militaire. En tant que militaire, il a développé une analyse politique du militaire où, pour lui, le plus important... Si vous voulez, il y a une crise du militaire à partir de la Première Guerre mondiale qu'il a analysée, même s'il n'est pas le seul, à savoir que les états-majors à l'arrière ont de plus en plus de mal à connaître le terrain et à pouvoir en fait conduire la guerre, c'est-à-dire s'adapter aux circonstances. La guerre n'est qu'une suite de circonstances. Et donc lui, il veut un pouvoir, c'est ce que j'ai essayé d'esquisser dans le livre, mais c'est peut-être d'ailleurs pas abouti, et je vais peut-être continuer dans cette direction. C'est ce qu'il appelle le caractère opérationnel du pouvoir. Il faut que le pouvoir soit informé et qu'il y ait une chaîne de commandement assez courte. Et donc, il transpose ça à la politique. Et quand il arrive à la présidence de la République, le dossier algérien, il le prend en main, mais au sens concret. C'est-à-dire qu'il va en Algérie, comme vous savez, sa première action, c'est d'aller en Algérie, la tournée des popotes, il y retourne plusieurs fois. Il veut donc avoir une connaissance directe de la situation pour avoir ce pouvoir de type opérationnel. Donc ce qu'il entend, si vous voulez, c'est qu'il transpose en politique, et certainement de manière excessive, parce que effectivement, si les électeurs se prononcent que sur la qualité du président à piloter les circonstances, hein, comme dans la célèbre image philosophique du gouvernail, d'un navire qu'on pilote, à ce moment-là, les électeurs ne sont pas appelés à exprimer leurs propres idées. Ils doivent simplement ratifier la qualité, j'allais dire, de pilote, de gouvernail d'un homme. Mais pour comprendre d'où vient cette idée, c'est en fait toute sa réflexion militaire qui vient de la Première Guerre mondiale.
On a souvent opposé donc un De Gaulle partisan d'un exécutif fort à Pierre Mendès France. Et je voudrais savoir si la vision mendéciste du pouvoir peut apparaître aujourd'hui, situation plus compliquée. Nous allons le voir avec justement une analyse que vous faites du temps présent et des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la vision mendéciste peut être une alternative pertinente à une vision gaullienne aujourd'hui, ou est-ce que, en la resituant, ça reste encore aujourd'hui une vision du passé?
Oui, alors bon, vous connaissez la cote de popularité de Mendès et du mendésisme dans beaucoup de générations politiques, plutôt les générations qui m'ont précédé, même d'ailleurs, je dirais. Moi, je suis aussi tombé là-dedans. Quand je me souviens, quand j'étais étudiant à Sciences Po, j'ai lu la biographie de Jean Lacouture sur Mendès. Bon, c'est clair que ça a pris, quoi. J'ai été fasciné. Aussi parce que c'est un exemple moral, pour moi ça c'est important aussi. Pour dire les choses de manière plus claire, et même à titre anecdotique, personnel, c'était les années 80, vous avez dit, j'ai intégré Saint-Cloud en 83, donc Sciences Po ça doit être un an ou deux après, donc plein Mitterrand, et en fait j'étais un déçu mais vraiment très fortement déçu de Mitterrand, pas simplement sur l'abandon, disons, l'abandon du socialisme, mais aussi sur les aspects, les scandales, les trucs pas clairs de Mitterrand, enfin bref, sur l'aspect moral. Donc moi, quand comme jeune homme, jeune étudiant, je regarde Mendès, c'est d'abord l'itinéraire personnel qui m'intéresse, qui me fascine et qui me séduit énormément. Donc finalement, je retombe dans la même potion magique que la génération de Rocard. Mais j'admirais aussi beaucoup Rocard à l'époque, bon, etc. Après, j'ai fait le travail pour La force de gouverner, pour le livre. Et alors là, j'ai regardé de près. Donc là aussi, j'ai lu in extenso le Mendès. Et alors là, dans l'analyse, ça me semble beaucoup plus compliqué. Parce que je pense que Mendès était tombé dans une impasse constitutionnelle qu'il n'a pas eu, lui, les moyens de penser. Alors, c'est très prétentieux de dire ça, parce que c'était un grand esprit, mais il me semble qu'il s'est engouffré dans ce qu'il appelle lui-même la réplique moderne, qui était moderne surtout par les moyens de gouvernement, la technique de gouvernement. Mendès était fasciné par la science économique. Il se pensait lui-même, à juste titre d'ailleurs, comme un spécialiste de l'économie, pouvant parler d'égal à égal avec des professeurs d'économie ou des hauts fonctionnaires très versés dans l'économie. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est les outils. Et par exemple, dans les outils, il y a les décrets. Tout ce qui aujourd'hui est l'équivalent des ordonnances. Donc pour lui, prendre du pouvoir au détriment du Parlement, c'est pas tellement un problème, du moment que c'est une politique moderne, modernisation de l'agriculture à marche forcée, modernisation de l'industrie, ouverture de l'industrie française à la concurrence internationale. En fait, il faisait une politique plutôt libérale, hein, dans le contenu, etc. Donc, ensuite, il se trouve aux prises avec le vieux parlementarisme, hein, parce que s'il a réussi à développer un pouvoir gouvernemental grâce aux décrets, hein, grâce à la politique de décret, de l'autre côté, il se retrouve en 54, 55, il se retrouve encore avec le vieux parlementarisme, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a jamais une majorité fixée à l'avance pour le gouvernement, vu qu'elle ne repose pas sur des accords de parti, et encore moins, ça n'est pas, pour Mendès, ça n'était pas une majorité fondée sur son parti à lui, puisque son parti à lui, c'est le parti radical, il est très loin de dominer l'Assemblée nationale, et qui plus est, lui-même dans le parti radical n'est pas aux manettes, il n'est pas chef du parti radical. Donc là, il se casse les dents sur le vieux parlementarisme, c'est-à-dire des majorités qui se décomposent. C'est surtout les catholiques, les démocrates chrétiens, le MRP qui a quitté la majorité et donc qui a fait basculer la majorité en minorité. Donc il essuie un vote de défiance, il quitte le pouvoir et à partir de là, il essaye quelque chose d'assez neuf, hein, de relativement nouveau. Là, il comprend que il faut passer par le parti. Donc, il essaye de conquérir le parti radical. Il y parvient en partie, mais non sans dégâts, en espérant, avec Jean-Jacques Servan-Schreiber derrière, etc., donc une politique médiatique très moderne derrière, il espère transformer le parti radical en grand parti dominant. Finalement, ce qu'a réussi à faire Mitterrand 10 ou 15 ans plus tard, mais avec le PS. Et en fait, il n'y parvient pas. Donc, il tombe dans l'impasse, parce qu'il n'a pas, comme une bonne partie de la tradition de gauche, il n'a pas pensé le constitutionnalisme finalement suffisamment en profondeur. À mon avis, bon, c'est encore une fois un peu prétentieux de dire ça, mais je pense que c'est l'impasse constitutionnelle de Mendès France. Donc, finalement, Mendès France ne laisse aucun testament pour la gauche actuelle. Si on veut réfléchir à cette 5e République et à une démocratie plus équilibrée.
Alors, en parlant justement de la période légèrement postérieure à l'ère Mendès-France, qui est plutôt dans les années 50, en parlant de la période 1960-1990, vous parlez des 30 glorieuses du constitutionnalisme gaullien, donc ce qui souligne d'une part les progrès que connaît la France à cette période-là en réalisant un travail de modernisation considérable sur son territoire comme dans sa politique. Et en même temps, vous sous-entendez les vins piteuses qui se prolongent encore aujourd'hui d'un point de vue politique, en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est que vous soulignez également que L'œuvre du général de Gaulle n'est acceptée de la gauche et du peuple en général que parce qu'elle repose sur une sorte de compromis politique qui est l'autorité et l'efficacité. Aujourd'hui, on voit bien que ça s'effrite. Et qu'est-ce que, selon vous, qu'est-ce qui serait intéressant d'explorer comme solution pour redonner vie à cette 5e République qui bat un petit peu de l'aile en ce moment?
Oui, oui. Alors ça, bon, c'est la question à 1000 francs. Non, je rigole parce qu'on m'a... pour le livre qui est sorti cet automne, j'ai fait quelques émissions de radio et on m'a souvent terminé la mission avec cette question. Et comme mon livre se termine où je présente le nouveau logiciel de la 5e République, donc je présente De Gaulle, les débats constituants, et en gros, je dis, bon, ben voilà, maintenant, en fait, l'exécutif a gagné, quoi. A gagné le match. C'est fini le match. Et donc le Parlement a perdu. Mais je m'arrête là. Donc en fait, je ne fais pas le déroulé de la 5e. Je crois que le nom même de Mitterrand et encore moins de Sarkozy n'est pas dans mon livre.
Pourtant, vous écrivez jusqu'au 21e siècle sur la couverture.
Alors ça, c'est confidence pour mes amis de Normal. C'est l'éditeur. C'est l'éditeur. Bon, après, en bon tacticien... Là, on se dit, bon, pourquoi pas, ça va faire venir un peu les journalistes, quoi. Donc, c'est de bonne guerre. Non, mais ce que la conclusion porte quand même sur un peu sur le présent. Mais je veux dire très honnêtement, la conclusion, c'est pas un travail de recherche. C'est quand même l'issue du livre. Donc, ce que je peux dire à titre modeste...
c'est un avis personnel, de toute façon, que je vous demande.
Oui, oui, voilà. Le livre débouche sur, effectivement, quelque chose qui était de dire, bon... Le match a été gagné par l'exécutif. Donc, apparemment, il y a la force de gouverner. Bon, donc, on arrive à l'épilogue du livre. Dorénavant, la force de gouverner correspond à la Constitution et à la politique réelle. Mais finalement, évidemment, je regarde notre époque, la présidence Sarkozy, et il faut bien le dire aussi maintenant, la présidence Hollande. Et donc, je me dis, ah, mais en fait, il y a maintenant une sorte de pied de nez. Donc une revanche, pas vraiment du Parlement, mais en fait une revanche providentielle, on peut dire, à savoir que ce dispositif mis en place en 58-62, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, associe effectivement, comme vous l'avez dit, associe l'autorité du gouvernement, de l'exécutif, ses moyens, planification, gouvernement par ordonnance à plusieurs reprises, parfois l'article 16... Le fait que le plan est une ardente obligation, le rôle de l'État dans l'économie. Je veux dire, quand le gouvernement de la Ve République avait l'instrument de la monnaie, le franc, avec éventuellement, même si c'est pas très bon à faire, des dévaluations, contrôler une grande partie du crédit, les banques et de grandes entreprises nationalisées, que ce soit fait par la droite ou par la, enfin, en 45 ou ensuite par la gauche, c'était peut-être, d'ailleurs, on exagère. Mais quand même, ça avait, si vous permettez l'expression, ça avait de la gueule. Ça avait l'allure d'un gouvernement fort qui est capable, en fait, de faire vivre dans le peuple, peut-être avec une part d'illusion, mais faire vivre dans le peuple l'idée que le gouvernement est en charge du destin collectif, a les moyens de définir un destin collectif, et notamment moderniser l'industrie, moderniser le pays. Je veux dire, les générations entre les années 60 et les années 90 ont nettement progressé par rapport à leurs parents, par exemple. Donc la notion tangible du progrès, c'est quelque chose qui est là dans les années 60 aux années 90. Voilà, donc le gouvernement a, si vous voulez, l'efficacité de son autorité, ce qui fait que cette espèce de deal implicite du début du régime, même si beaucoup de républicains, à commencer par Mitterrand, ont commencé par crier au régime d'exception, au coup d'État permanent, en fait, très vite, ça s'est tassé. Et la gauche s'est très vite ralliée. D'ailleurs, en réalité, elle se ralliait depuis le départ, hein, notamment chez Mitterrand. Mais la gauche s'est ralliée parce que cette 5e République, c'est un formidable instrument, en 81, pour faire des nationalisations, une politique économique keynésienne très ambitieuse, qui prend en charge l'ensemble de l'économie, où l'État donne sa marche au secteur privé. Enfin, voilà, tout ce qu'on a connu jusqu'en 83-84. Donc, voilà, le deal, en fait, qui voulait dire aussi que d'un côté, on faisait le sacrifice du Parlement, du parlementarisme, des vices et des délices du Parlement, comme on disait sous la 4e. Donc, le petit jeu parlementaire a été abandonné, mais au moins, on avait l'efficacité du gouvernement. pour une bonne idée, un bon principe, c'est-à-dire tout simplement le progrès social, qui d'ailleurs, il faut le reconnaître, pouvait être aussi fait par des gouvernements de droite, VGE, dans une certaine mesure, en tout cas au début de son septennat, il y a des réformes sociales. Enfin, je veux dire, on continue l'État-providence, l'État social. Voilà, donc ça, cette sorte d'enchevêtrement, il y a aussi des non-dits, hein, mais en gros, un consensus qui ne dit pas vraiment son nom. Parce que par ailleurs, au PS ou dans le programme commun, on continue toujours d'avoir un petit chapitre au coin d'une page sur à rééquilibrer les pouvoirs. On a toujours entretenu ça. On a toujours dit, il faudrait quand même revaloriser le Parlement. Et on peut le dire aussi à droite d'ailleurs. Hein. Mais ça a toujours été maintenu dans les programmes du PS. Mais finalement, Mitterrand n'a rien fait sur ce plan-là. Voilà, donc ça commence à se casser la gueule quand les politiques économiques deviennent inefficaces, quand on entre dans cette sorte de crise permanente, enfin, on ne sait même plus si c'est vraiment une crise ou si c'est structurel, à partir du milieu des années 90, années 2000, là, au fond, la présidence elle-même commence à s'affaiblir et, de l'autre côté, les résultats économiques, l'idéal social, lui-même, s'affaiblit ou s'effrite. Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'on est dans la situation où, en gros, même les partisans gaullistes de la Ve République ne retrouvent pas leur bille dans la République actuelle. Ils ne peuvent pas considérer que Sarkozy, c'était un président efficace. Du coup, le terme même hyper-présidence est un peu, comme on dit en rhétorique, une antiphrase, enfin, veut pratiquement dire le contraire de ce qu'il sous-entend, parce que c'est une omniscience en termes de présence, notamment médiatique, mais il n'y a pas les résultats. François Hollande a voulu être un président normal. Des circonstances l'ont amené à être beaucoup plus présent, donc lui aussi hyper-président, je pense aux régaliens, aux militaires, mais ça ne s'accompagne pas pour le moment, de résultats économiques. C'est bien ce qu'il faut reconnaître. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français, ça peut être des gaullistes, ça peut être des gens de gauche qui entretiennent toujours l'idéal d'une république et d'une démocratie plus active, qui ne se retrouvent pas dans la Ve République, en fait, dans ce qu'est devenu la Ve République. Probablement De Gaulle lui-même ne serait pas forcément heureux de cette république deuxième manière.
La voix drôle de voix, profonde et saccadée, la voix qu'on écoutait tout bas, les portes bien fermées, la voix qui racontait une France à ton goût, moi. Quand elle va se taire, je te parie sans sous que tu le regretteras, tu le regretteras, tu le regretteras beaucoup.
Il n'y a plus de tabac dans la tabatière.
C'est vraiment très dommage. Toi qui es mon ami, on n'est plus du même rivage. Ah, quand on parle de lui, cet homme légendaire au milieu des vivants, ouais. Le jour où on l'enterre, tiens, je te parie 100 francs que tu le regretteras.
Parlions justement de ce qui n'allait pas et de ce qui n'allait plus. Mmh. Et je vais peut-être reprendre sur une légère remarque. Mmh. J'ai l'impression, en vous écoutant, que le problème de la 5e aujourd'hui, c'est de ne pas être assez puissante. C'est-à-dire qu'on avait créé quelque chose de très puissant, mais qui n'était efficace que lorsqu'il était très puissant. Et en perdant une partie de sa puissance, notamment avec l'essor de l'Union européenne et le transfert des compétences économiques au niveau de la Banque centrale européenne ou de la Commission.
Oui, ou la dissolution. Même. C'est soit à la fois le transfert de levier économique qui était autrefois à l'échelle du gouvernement national, mais il y a d'autres leviers économiques qui ont carrément été dissous, en fait.
Oui, d'autres avec les privatisations, par exemple. C'est ça, tout à fait. Et donc, cette absence de... cette insuffisance du pouvoir, cette trop grande faiblesse aujourd'hui, expliquerait les problèmes que rencontre l'exécutif, le gouvernement, aujourd'hui, dans sa crédibilité et dans son absence de support populaire.
Oui, le bon mot, c'est crédibilité, parce qu'en fait, on voit que le pouvoir continue à avoir... le pouvoir exécutif, je parle, hein, le présidentiel, et le Premier ministre aussi... continue à avoir cette surface, un pouvoir qui continue d'occuper l'espace, bien sûr médiatique, mais aussi des tas de sortes d'initiatives. Et ça n'embraye pas, ce que je dis est assez banal, mais ça n'embraye pas sur, effectivement, ces résultats économiques et sociaux, notamment, comme on pouvait le faire il y a encore 20 ou 30 ans, sous la Ve République, disons, triomphante. Donc, je ne sais pas ce qu'on écrira plus tard dans les livres d'histoire, mais probablement, il y aura quand même... les historiens essaieront de faire probablement cette coupure, une Ve République triomphante, un petit peu comme il y a eu pour la Troisième, la génération, la Dream Team, quoi, des années 1880, Gambetta et les autres, qui fondent la République jusqu'à la guerre, affaire Dreyfus comprise, qui relance l'idéal républicain. Donc, il y a quand même 30 ans... de parlementarisme, de force politique indéniable. Et probablement que les historiens diront, quand ça commence à s'enliser dans le sable, on verra, les années 80, 90, Mais par contre, ce qu'il faut peut-être nuancer, c'est que, parce que je m'interroge là-dessus, mais c'est un peu en citoyen, là, hein, en café du commerce, au bon sens du mot, en café républicain du commerce, où on échange des idées. Je me dis aussi qu'il y a quand même quelque chose qui continue à marcher, quoi qu'on dise, on l'a vu en 2012. Est-ce que ça va marcher encore en 2017? Probablement que oui. C'est que l'élection présidentielle, elle marche. C'est-à-dire, elle passionne.
C'est un moment de ferveur, oui.
C'est un moment de ferveur, c'est un moment de croyance. C'est-à-dire qu'on croit à ce fameux programme. On se passionne, par exemple, pour tel ou tel candidat. La preuve, c'est qu'on fait des primaires. Les primaires socialistes ont été un grand succès. De ce point de vue-là, c'est bien pour ça que la droite le fait aussi. Elle va occuper une partie de l'espace médiatique à l'automne. Et au moment du taux de participation, le taux de participation, c'est un taux de participation, c'est pas à l'américaine, ou même à l'anglaise. Je veux dire, c'est encore la France politique, c'est encore ce pays politisé où une grande partie des Français s'intéresse à la politique, l'aime pas, mais en tout cas en parle et veulent voter. Donc de ce point de vue-là. La cinquième s'attache encore à ce fil, mais qui est quand même son fil principal depuis la réforme de 62, qui effectivement, on choisit le boss directement, et aussi illusoire que ce soit, le moment d'élection, quand on se dit, je peux choisir entre François Hollande ou Sarkozy, on a ce pouvoir-là. Et ça, au fond, c'est tout bête, mais je crois que ça a été la grande trouvaille, même qui a été probablement sous-estimée par De Gaulle et Debré. La grande trouvaille, la botte secrète quoi, de la cinquième, c'est littéralement ce pouvoir d'individu à individu qu'on a donné un jour, même deux jours, deux dimanches, de choisir son capitaine. Donc ça reste. Alors à quel moment les Français, les électeurs vont se dire finalement, à quoi ça sert de choisir un type qui a soi-disant un programme, soi-disant des promesses, et qui, because Union européenne, ou because mondialisation, etc., ne pourra pas faire ce qu'il dit, je ne sais pas. C'est pas évident. En tout cas, je pense que ce n'est pas par la suppression de l'élection présidentielle qu'on peut changer, en fait, la Ve République. En tout cas, ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Donc moi, pour répondre un peu à votre question, ce serait beaucoup plus par une réflexion dont d'ailleurs moi personnellement je n'ai pas du tout les détails quoi, mais une réflexion sur une rénovation du Parlement, mais pas à l'ancienne, hein, pas du tout à l'ancienne, on peut pas recommencer la Troisième République, mais probablement retrouver le sens profond de ce qu'est une législation et donc une délibération législative, probablement que une délibération législative New Look aurait la possibilité de greffer à elle des éléments de consultation, de démocratie participative. Ça fait un peu bisounours, mais je pense que c'est quand même ça, dans cette direction qu'il faudrait aller. Mais là, c'est un peu renverser la table. Moi, par exemple, c'est un truc un peu idiot, mais si on me demandait mon avis, moi, une des premières choses, je dirais, par exemple, déménager, construire un nouveau Parlement. Comme disait Cabet au XIXe siècle, une cité parlementaire, une cité du peuple, et ne plus la mettre dans ces deux bâtiments monarchiques et guindés du Palais Bourbon et du Palais du Luxembourg, faire une cité parlementaire. Les militaires l'ont fait avec leur pentagone à la française à Ballard. Oui. Donc c'est énorme. Mais en fait, on devrait penser ça pour ce qui doit être le cœur de la République, c'est-à-dire là où ça bat, le cœur qui bat, la cité parlementaire. Et pourquoi pas la faire... Bon, moi, je suis banlieusard, donc je la verrais bien en banlieue, mais ça pourrait être à Lyon, je sais pas, ou... Non, je ne sais pas si ce serait possible dans une ville loin des ministères, quoi, voilà, loin des ministères, les ministères restant à Paris. Mais en tout cas, pourquoi pas et à ce moment-là, expérimenter, en fait. Expérimenter, pas forcément passer par... J'ai beaucoup d'intérêt pour ce que dit Mélenchon, par exemple. Pas forcément donc une sixième république. Moi, je crois plus trop au constitutionnalisme. C'est-à-dire, on va mettre dans un texte la Constitution, ou même si c'est après une assemblée constituante, comme le dit le parti de gauche. Et en fait, une fois qu'on aura fait un texte, pof. Moi, je crois plus du tout. Je pense qu'on est dans une période post-constitutionnaliste. Donc, c'est plus des expériences. On peut commencer par le règlement des assemblées. C'est ce qui a été fait, d'ailleurs, ce qu'on a essayé de faire. Mais dans ce sens-là.
Alors, vous avez écrit avec le Parlement de l'éloquence une histoire du parlementarisme, avec la force de gouverner une histoire de l'exécutif. Alors, vous la sentez peut-être venir, mais est-ce qu'on doit attendre un prochain ouvrage sur l'histoire du pouvoir judiciaire ou alors juridique en France judiciaire. Ce serait le triptyque qui...
Ça paraît une blague, mais c'est exactement le projet que je fais maintenant, que j'ai lancé depuis un an. Je vais faire un travail où il y aura en fait toujours du Parlement, de l'exécutif, mais où je vais faire entrer la dimension judiciaire. Alors, ce n'est pas pour faire le triptyque, mais en fait, ça m'est venu comme ça.
Non, mais
après, j'y ai pensé.
L'exhaustivité des pouvoirs.
Oui, après, j'y ai pensé. Je me suis dit, c'est drôle, tu fais les trois, pouvoirs, Et en fait, c'est ça. La différence, c'est que là, pour respirer aussi, pour renouveler des lectures, ou justement ce que je parlais d'expérience selon Collingwood, du coup, je travaille aussi sur l'Angleterre pour comprendre. En fait, mon idée, c'est de travailler sur comment une matrice judiciaire, donc le droit, le common law anglaise, a en gros formaté en quelque sorte la politique moderne, le parlementarisme et le gouvernement, d'une certaine manière en Angleterre, et comment ça s'est passé autrement en France. Voilà. Bon, enfin, c'est un peu vague, mais c'est ce que je commence à travailler. Et je terminerai probablement dans 10 ans. Mais juste pour terminer, quand je dis ça, c'est pas une boutade. C'est vrai, j'ai mis 10 ans. J'ai fait, en fait, pour être honnête, j'ai fait 2 livres. L'un en 96 ou 97, le premier, le Parlement, et puis là, c'est 2015. Et en fait, c'est ma manière de travailler. Et je l'ai pas fait exprès, mais je me rends compte que c'est pas du tout efficace du point de vue de la carrière. Alors ça, ce serait une autre réflexion à mener, c'est combien aussi le formatage et les contraintes de la carrière vont à l'encontre de ce type de travail. Mais bon, c'est une autre histoire.
Nicolas Rousselier, je vous remercie d'avoir accepté notre interview.
Non, merci à vous.
Je rappelle tout de même votre dernier livre, donc « La force de gouverner », qui est une histoire conséquente et très stimulante d'un point de vue intellectuel et sur la perception que l'on peut avoir de notre histoire, de l'exécutif, paru chez NRF Essai, donc cette année, octobre 2015.
Merci beaucoup.